Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur RTL Première Radio de France pour refaire le match. On va parler équipe de France avec les déclarations de Nicolas Anelka, nos confrères de France Soir, du côté de Franck Ribéry. Également la consternation après les matchs de suspension infligés par la commission fédérale de discipline. Anelka qui traite la commission de clown, qui parle de pittoresque et qui n'en a rien à faire. Franck Ribéry et le Bayern qui ferment les conférences de presse aux journalistes français. Les dérives de Naïsna n'ont-elles servi à rien? Les leçons ont-elles été écoutées ou pas? On en parle avec vous sur le 32-10 jusqu'à 20h30. Vous pouvez également réagir sur le blog dont refait le match sur rtl.fr. Et par SMS foot, vous laissez un espace, vous envoyez votre petit message et vous envoyez le tout au 64-900. Après l'expresso de Jean-Louis Tour, nous parlerons également Mercato, Gignac, Rémy, la perte d'attaquants, ça se dessine de plus en plus du côté de l'Olympique de Marseille. Jean-Louis Pacul nous donnera les dernières informations. Et puis du côté de Lyon également, va-t-on faire barrage à l'OM en ce qui concerne Loïc Rémy? Apparemment non, on s'intéresse plutôt à Johan Gourcuff. Willy Maisonas, notre voix du côté de Lyon, sera également avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Vous entendrez également Gilbert Stellardo, le président niçois. Et puis toutes les dernières infos transfert de la cellule de recrutement avec Jean-Louis Tour et Cyprien Sim.
Avec Parion Sport, vivez le foot plus intensément en suivant les matchs de votre choix.
Pour toute information sur les matchs à venir, voici votre rendez-vous pronostic dans On refait le match. FDJ.
Oui, le rendez-vous pronostic comme tous les soirs avec le retour de Lionel Rousseau. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Eric.
Est-ce que ces quelques jours de vacances étaient agréables?
Écoutez, ça m'a permis de décompresser un petit peu après ce premier départ en vacances, la première vague. Je n'ai pas pu résister à la deuxième.
Il fallait que vous digériez le début de la Ligue 1 également.
Oui, absolument. Et hein, très très bon début d'ailleurs de l'équipe de Marseille et d'Arles-Avignon.
Exactement, on va en parler.
Ce qui indique à peu près dans quelle région je me trouvais. Hein,
votre voix aussi, de temps en temps, votre accent un petit peu quand même. Marseille lancera question tout à l'heure. Tiens, on parlera également de Ben Arfa, bien sûr, dans le Mercato. Et pourquoi je parle de Ben Arfa? Parce qu'avec vous, Lionel, on va s'intéresser au tour préliminaire de la Ligue des Champions pour notre rendez-vous conseil en pronostic. Tout à l'heure, dans 40 minutes maintenant, ont lieu des matchs du tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Et on va s'intéresser avec vous, notamment au match Verder Brême-Sampdoria, le Werder qui se rapproche lui aussi un petit peu plus d'un contact avec Ben Arfa. Il faudrait peut-être déjà se qualifier pour la Ligue des Champions pour intéresser Atem Ben Arfa.
Oui, il faut remplacer Ozil qui est parti au Real Madrid, et ça c'est problématique hein, quand même pour le Werder de Brême, car ce joueur a fait beaucoup la saison passée, aurait pu beaucoup apporter pour ce premier match de Ligue des Champions. La cote 1,75 quand même pour le Werder, 3,25 pour le match nul et 3,90 pour la victoire de la Sampdoria. Première indication pour les parieurs, c'est Monsieur Lannoy qui va diriger les débats. Et alors, je sais que les puristes aiment bien parier en fonction de l'identité de l'arbitre, donc voilà, ça compte déjà pour une première information.
A-t-il la cote, notre arbitre français? Pas toujours.
Voilà, c'est ça évidemment, je laisse ça à la sagacité de tous les pronostiqueurs. Sinon, c'est vrai qu'à domicile, avantage Werder, parce que c'est une équipe qui a l'expérience bien sûr de la Ligue des Champions, qui possède aussi des arguments offensifs. Alors, effectivement, il n'y a plus Ozil, mais Pizarro devant, notamment, c'est costaud. La saison passée, il faut préciser quand même qu'à la maison, en Bundesliga, Brême a marqué 2 buts par match en moyenne, c'est beaucoup. Le Werder qui a passé sans problème le premier tour de la Coupe d'Allemagne, enfin c'était contre une équipe d'amateurs, Rot-Weiss, 4-0. Côté Sampdoria, bien écoutez, pour un match aller, on va tenter de limiter la casse en pensant au retour. Peut-être essayer de marquer un but, parce qu'il y a aussi des arguments avec notamment le duo d'attaquants Pazzini et Cassano. Mais enfin, on peut logiquement parier ce soir sur la cote du favori 1,75, victoire du Werder.
Ouais, problème de préparation également pour la Sampdoria. On sait que les Italiens reprennent extrêmement tard leur championnat et souvent au mois d'août, ils sont un peu courts physiquement. Donc avantage au Werder. On rappelle les cotes une dernière fois quand même.
1,75 pour le Werder, 3,25 pour le nul et 3,90 pour la Sampdoria.
Autre rencontre à laquelle on s'intéresse ce soir de ce tour préliminaire aller de la Ligue des Champions, c'est le FC Séville de Luis Fabiano qui se déplace au Sporting Braga. Fabiano qui ne devrait pas jouer d'ailleurs.
Alors justement Eric, là il y a un coup à faire. Il y a un coup à faire parce que, écoutez plutôt, voilà les cotes. 2,60 pour la victoire de Braga qui reçoit. 3,20 pour le match nul et 2,30 pour la victoire de Séville. Séville favori à l'extérieur. Mais oui, l'historique de cette équipe, double vainqueur de la Coupe UEFA récemment, 8e de finale de Ligue des Champions l'an passé. Il y a un coup à faire parce qu'effectivement Luis Fabiano qui va être transféré, alors pas à l'OM mais qui va être transféré, ne sera pas aligné ce soir. Il faut pas non plus tomber dans le piège de cette fameuse victoire en match aller de la Supercoupe d'Espagne, 3-1 contre le Barça, parce que bon, déjà les Catalans n'étaient pas prêts, puis l'effectif était loin d'être complet. Exactement, ouais. Voilà, donc il faut pas du tout se fier à cette victoire 3-1 de Séville. Là aussi la Liga n'a pas repris alors que le championnat portugais, oui, une première journée est déjà Braga leader, victoire 3-1 contre Pornimonjense. Il faut se rappeler que Braga l'an passé avait longtemps caracolé en tête avant de se faire doubler. Braga à domicile, c'est fort, hein, très très fort. Braga qui vient d'éliminer le Celtic Glasgow au tour précédent de ses tours préliminaires de Ligue des Champions, 3-0 lors du dernier match. Donc victoire du Braga avec cette très très bonne cote à 2,60. Là, c'est mon conseil pour ce soir. Même si pour la qualif à l'arrivée, je vois le bête quand même Séville.
Je pensais qualifier. Que vous alliez nous vendre la bonne affaire avec le nul, parce que le nul, c'est encore plus, non?
3-20, effectivement. Mais l'absence de Luis Fabiano, le fait de jouer à l'extérieur, à côté du Rocher, dans ce stade de Braga, là-bas, cette équipe qui est déjà rodée, moi, je vois bien les Portugais s'imposer. Peut-être que Séville va marquer et que ce but à l'extérieur suffira pour la qualification. Mais je vois bien une victoire de Braga.
Bon, alors une victoire de Braga pour Lionel Rosso. Suivez notre spécialiste en pronostic. Les autres rencontres du soir, je vous les donne, c'est Salzbourg, Hapoël Tel Aviv et FC Bâle, Sheriff Tiraspol. On rappelle les cotes également, Lionel, des matchs de Ligue Europe qui auront lieu demain. Deux clubs français sont engagés. D'abord le Paris Saint-Germain qui joue contre le Maccabi Tel Aviv.
Très favori le Paris Saint-Germain, soit 1,35 contre le Maccabi Tel Aviv, 4,10 pour le match nul et 6,60 pour le Maccabi. Bon, il n'y aura pas Coupé, il n'y aura pas Makelele, mais c'est prévu hein, parce qu'il y a un match important en Ligue 1 contre Bordeaux dimanche, donc Antoine Comboiré fait un peu tourner.
Et puis cote favorable également, j'imagine, pour Lille en déplacement chez les Roumains de Valsui.
Oui, très mauvais début de championnat pour Valsui, seulement première victoire le week-end dernier. 3-15 pour les Roumains, 3-15 pour le match nul et 2,00 pour la victoire des Lillois qui joueront sans Rami mais avec Cabaye qui était incertain. Il sera là, il est dans le groupe en tout cas.
Merci d'être entré, Lionel Rosso.
C'est un plaisir.
Vous nous manquiez un petit peu quand même. On était très bien avec Carl Olive aussi, mais c'est vous, on est content de vous retrouver.
C'est une équipe, vous savez.
À demain, Lionel. Et puis vendredi, bien sûr, pour On joue le match, tous les pronostics en vue de la troisième journée de Ligue 1. Très bonne soirée, Lionel.
Merci, bonne soirée.
Et maintenant, à vous de jouer.
Rendez-vous avec les meilleurs experts pronostics
vendredi sur RTL, dès 20h.
Vivez vos matchs plus intensément avec Parions Sport.
FTJ, on refait le match.
Jusqu'à 21h sur RTL.
Et si la rentrée, c'était aussi une bonne nouvelle? D'accord, c'est la fin des vacances, faut défaire les valises, s'occuper du linge. Tiens, à propos de linge, bonne nouvelle justement. En ce moment, chez But, le lave-linge Hublot Indesit 7 kg est à 299€ seulement, éco-participation comprise jusqu'au 29 août. 299€, une rentrée économique?
But, on s'y retrouve tous.
Préparez-vous au choc des titans.
Un jour, quelqu'un devra dire assez.
La lutte contre les dieux continue.
Libère le Kraken.
Le choc des titans. Maintenant, Ultimate Edition Blu-ray, DVD et VOD.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Chérie, c'est la rentrée des classes chez Sport 2000.
Pourquoi ils donnent des cours maintenant?
Non, ils font des prix spéciales rentrée. Des chaussures junior Nike ou Adidas à 19,95€ au lieu de 30€. Le survêtement junior Adidas, 24,95€ au lieu de 45€. T'as fait le calcul?
Bah c'est ça, ils donnent des cours de maths.
Jusqu'au 12 septembre, c'est la rentrée chez Sport 2000. Et la rentrée chez Sport 2000, c'est quoi? C'est des prix tout petits. Voir conditions en magasin et sur sport2000.fr.
Ça, c'est des cours à regretter l'école.
Oui, bah, faut pas exagérer non plus.
Sport 2000, le sport, mais pas que.
RTL.
On refait le match.
On refait le match.
Éric Silvestro jusqu'à 21h sur RTL.
20h12 à l'écoute d'RTL, on ouvre notre page Équipe de France avec le prolongement des sanctions prononcées hier par la Commission fédérale de discipline. Les 18 matchs de suspension pour Nicolas Anelka, les 5 matchs pour Patrice Evra, les 3 matchs pour Franck Ribéry, le match de suspension pour Jérémy Toudalan. Et je vous rappelle, Eric Abidal est le seul à être passé au travers des mailles du filet. On attendait les réactions de ceux qui étaient absents hier, Nicolas Anelka et Franck Ribéry. Elles n'ont pas tardé. Nicolas Anelka, dans la presse ce matin chez nos confrères de François, parle de mascarade, de clown. Il s'en fiche complètement, les Bleus. J'ai tourné la page, l'équipe de France fait partie du passé. Bref, ça n'a pas l'air de beaucoup l'inquiéter, cette sanction. Quant à Franck Ribéry, eh bien, il se dit consterné via son avocat. Et surtout, une conférence de presse avait lieu aujourd'hui au Bayern. Eh bien, sachez que les journalistes français n'ont pas été invités à cette conférence de presse. Alors, les dérives de Naïsna n'ont-elles servi à rien? Les leçons n'ont-elles pas été tirées de cet événement tragique du Mondial? On en parle avec vous et avec nos spécialistes jusqu'à 20h30, notamment Alexis Menuge, notre correspondant en Allemagne. Bonjour Alexis.
Bonsoir messieurs.
Comment ça va?
Un peu choqué par ce qui se passe au Bayern et notamment Franck Ribéry qui nous ouvre plus les portes comme il l'a fait il y avait quelques temps pourtant.
Là on vous l'a carrément fermé sur le nez mon cher Alexis aujourd'hui.
Oui, en fait, c'était hier après-midi. Il était question de remplir un formulaire pour justement pouvoir participer à cette conférence de presse. Et puis, gentiment mais fermement, le chef de presse a passé un coup de fil pour indiquer que Franck Ribéry ne souhaitait voir aucun journaliste français à cette conférence de presse, sinon Sinon, il allait probablement la boycotter pour une durée indéterminée. Donc c'est assez inexplicable et surtout la preuve que le joueur n'assure strictement rien.
Et on respecte donc bien le travail des journalistes. Cyprien, déjà moi j'étais très surpris, je vous avoue, je ne savais pas qu'il fallait s'accréditer pour une conférence de presse. C'est toujours le cas au Bayern, Alexis?
Ça a changé depuis 2 ans, depuis que Jürgen Klinsmann avait révolutionné le club par ses infrastructures. En fait, il y a deux parties. Il y a une partie consacrée à la presse écrite, autour d'une table, une dizaine de journalistes avec le joueur, et puis une autre consacrée aux télévisions et aux radios, avec beaucoup de micros, et Franck d'ailleurs qui a donné une conférence de presse aujourd'hui, enfin ce point presse en langue de Goethe et dans son intégralité pour la première fois.
Cyprien Signy, ouais, Jean-Louis Tour, votre première réaction?
Le problème, je trouve, alors, on va pas faire de corporatisme, etc., oui, les journalistes, mais là, il y a quand même une chose, c'est que Franck Ribéry, c'est un joueur français qui joue à l'étranger. Donc il y a des journalistes français qui sont là pour le voir spécialement. Et c'est eux qui relaient les informations de Franck Ribéry au public français, c'est-à-dire à son public. Donc de refuser l'accès aux journalistes français spécifiquement et de les stigmatiser comme l'a fait Franck Ribéry, c'est vraiment, j'ai pas d'autre expression que de dire
oui, c'est grave,
merde aux Français, quoi. Enfin, je le prends comme ça. Et je trouve ça très fort et très grave. À la rigueur, qu'il boycotte toute conférence de presse avec tous les journalistes, ok, pourquoi pas. Mais stigmatiser juste les journalistes français, je trouve que c'est encore pire. C'est encore
plus maladroit. Au-delà de ça, et Alexis l'a dit, et il faut insister là-dessus, ça montre bien que Ribéry n'est pas tranquille avec cela et qu'il n'assume absolument pas ce qui se passe et les sanctions. Il pourrait dire, ok, j'ai été sanctionné, on a payé, faire limite comme Nicolas Anelka ou assumer quelque chose.
Ah non, parce que lui, je pense qu'il veut revenir en équipe de France.
Oui, d'accord, mais avoir un point de vue, il peut dire, il peut quand même s'exprimer devant les médias français et revenir en équipe de France. Il peut dire, j'assume les sanctions. Voilà.
Ou alors, il peut ne pas faire de conférence de presse du tout à ce moment-là.
Mais non, mais c'est surtout que c'est très grave. Un mois après ce qui s'est passé à Nice-Nad, encore une fois, c'est tourner le dos aux professionnels, je sais pas, c'est très surprenant.
Alexis, on en parle un peu en Allemagne de tout ça, de ce que fait Franck Ribéry, ou ça touche vraiment que nous, les journalistes français?
Oui, vous savez, il répond tous les jours à la presse allemande, aux journaux, aux télévisions, eux, pour l'instant.
C'est sa nouvelle famille, quoi.
Voilà, ils nous tournent le dos, c'est un peu un acte, on va pas aller trop loin non plus.
Les Français, c'est les méchants, ici, ils sont gentils.
Non, mais il incombe vraiment la responsabilité et de ce qui s'est passé en Afrique du Sud et de l'affaire Zaya et tout ce qu'il y a eu autour, il l'incombe en fait à la presse française, et lui n'assume encore une fois rien. Et ça, c'est grave.
Alors, qu'en pensent les auditeurs d'RTL? Pierre nous rejoint sur le 3210. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, c'est ce petit caprice, ce nouveau caprice de Franck Ribéry?
Oui, c'est un nouveau caprice. Moi, à mon avis, je crois qu'il n'a pas très bien compris, ni au tout du moins lui et puis quelques-uns de ses coéquipiers. Mais bon, il reviendra, on en aura besoin. Mais moi, je voulais revenir sur cette équipe de France qui a fait France-Norvège. Je vais une petite parenthèse. Je les ai trouvés bien, ces petits jeunes, tout ça. Mais effectivement, l'équipe qu'on avait, type, quand même en Afrique du Sud, je pense que c'est... elle a été mal drivée par Domenech, parce que quand j'ai vu la prestation de la France-Norvège avec les nouveaux joueurs, c'est vrai, ils jouent très bien, mais il manque de maturité, il manque beaucoup de choses. Et cette équipe qu'on avait, à part quelques têtes de Turcs qu'on vient de citer ou qu'ils ont fait leur petit truc ensemble, je pense que si elle avait été bien drivée par Domenech, je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin.
Sans doute.
Et je pense qu'il faut reprendre des anciens joueurs qui sont pas... 98, ça c'est pour le staff, on s'en fout, ils se débrouillent, la Fédé se débrouille. Mais je veux dire, dans l'équipe, il faut reprendre des Toulalan, il faut reprendre de Patrice Evra, il faut reprendre peut-être Galas, il faut peut-être reprendre...
Et Ribéry.
Bien sûr.
Non mais Pierre, ce sera le cas. D'ailleurs, aujourd'hui, Laurent Blanc a déclaré, après les sanctions tombées hier, que c'était justement une situation peu évidente, pas idéale du tout pour préparer les éliminatoires et les matchs de qualification. Laurent Blanc, lui, il a envie de tous pouvoir les prendre. Enfin, en tout cas, d'avoir le choix.
Oui, Pierre, ce qui est étonnant par rapport à ce qu'a fait Franck Ribéry aujourd'hui, c'est que Laurent Blanc, son but, c'est d'insuffler un nouvel état d'esprit à cette équipe de France. Et on s'aperçoit que l'état d'esprit, il n'a pas du tout changé, en fait,
voilà,
pour certains.
Lui, il n'a pas changé. Il reste sur ses positions. Il fait sa tête de Turc, il veut rester comme ça. Bon, à ce moment-là, on peut peut-être Laurent Blanc peut s'en dispenser. Hein. Je pense qu'il y a des courageux aussi, hein, des nouveaux. Par contre,
Non, mais de toute façon, Pierre, sportivement parlant, tout le monde peut se passer de Franck Ribéry en ce moment ou sur ce qui monte sur ces derniers mois.
Oui, mais ce qui est grave, c'est qu'au lieu de se poser la question de savoir est-ce que sportivement on a besoin de Franck Ribéry ou pas, parce que la question mérite quand même d'être posée, on va encore se focaliser sur le fait. Enfin, moi, quand il dit aucun journaliste français n'a le droit de venir à la conférence de presse, encore une fois, il salit la France. Enfin, je veux dire.
Bien sûr, oui. Non, mais on peut s'en dispenser. Moi, je pense.
Il va s'en dispenser tout seul s'il continue. Hein.
Sportivement, peut-être pas.
Alexis, ça donne quoi sportivement avec Franck Ribéry sur les matchs amicaux?
C'est un bon attaquant, c'est quand même un gars qui donne du jus, c'est quand même un gars qui mène quand même un peu l'équipe, qui est bon.
Mais comme vous le disiez, Jean-Louis, ça fait.
C'est une tête de lisse. Hein. Enfin, voilà, mais c'est pas son nom, c'est parce que c'est son jeu qui fait que je pense qu'il est vaillant, il est courageux.
Pierre, on va écouter Alexis Menuch qui le fréquente tous les jours en Allemagne, même à l'entraînement. Dans quel état il est physiquement? Oui, de loin, il n'a pas le droit de le voir de près. Mais
c'est mieux comme ça.
Attention, vous allez avoir moins de 10 mètres, vous n'allez pas pouvoir vous approcher à moins de 10 mètres.
On va y arriver.
Une injonction du tribunal, bien
sûr. En tout cas, je suis curieux de savoir comment ça va se passer vendredi soir. Vous savez que c'est la reprise de ce grand championnat qu'est la Bundesliga. Bayern Wolfsburg et une zone
mixte. Vendez quand même votre truc, hein, toujours.
Et croyez-moi bien que j'irai en zone mixte et que voilà, c'est un endroit réservé à la presse, donc pour tous les journalistes. Et là, il n'y aura bien sûr, ce sera pas un accès interdit. Maintenant, si lui refuse de parler parce que un journaliste français dans les parages, tant pis pour lui.
Et alors, il donne quoi sur les matchs de préparation, Alexis?
Écoutez, comme vous le savez très bien, vous n'en voulez plus au Real, mon cher.
Non, on vous le laisse volontiers.
C'est dommage. En tout cas, ça fait un an que c'est pas terrible, on le sait. Alors, c'était pas mal sa première période face au Real Madrid, justement la semaine dernière lors du trophée Beckenbauer. Là, le Bayern a joué en Coupe d'Allemagne lundi soir. Il a certes marqué, mais il n'a pas été flamboyant dans le jeu. Et puis, pour la première fois depuis très longtemps aujourd'hui, l'un des patrons de Bernou Lyonnais lui a mis la pression, lui disant que Franck Ribéry a une dette envers le Bayern par rapport à ces derniers mois où son club l'a toujours soutenu contre vents et marées dans toutes les histoires qu'il a eues, que ce soit sur ou en dehors du terrain, et que Franck sur le terrain doit absolument réagir et apporter satisfaction. On rappelle, hein, messieurs, que Franck a prolongé son contrat jusqu'en 2015, il y a 3 mois, avec une très forte revalorisation salariale.
Et pour l'équipe de France, il a le temps de bien se préparer, de bien retrouver sa pleine mesure, puisqu'on le reverra le 12 octobre normalement, si Laurent Blanc veut de lui sportivement, pour le France-Luxembourg qualificatif pour l'Euro 2012.
Pour parler un peu de football, il faut aussi rappeler que Franck Ribéry va avoir encore un peu plus de pression après ce qu'a dit Ole Olenès, c'est qu'il y a la blessure de Robben également.
Oui, alors.
Donc il va avoir les clés du jeu un petit peu, non? On l'attend au tournant en Allemagne un petit peu quand même là.
Oui, mais on parle plus en Allemagne en ce moment, enfin au Bayern, des jeunes talents qui ont. Autant briller à la Coupe du Monde avec Toni Kroos notamment, qui est le nouveau meilleur de jeu du Bayern, lui qui revient d'un prêt au Bayer Leverkusen. Et puis, poste pour poste, c'est Thomas Müller qui remplacera Arjen Robben. Mais c'est vrai que Ribéry, on attend beaucoup de lui. Encore une fois, ça fait 3 ans qu'il est en Bavière et la première année est exceptionnelle, mais ensuite il s'est vite éteint. C'est à lui de réagir maintenant pour, encore une fois, déjà enrichir son palmarès et surtout redorer son image, qui a quand même pris un sérieux coup en Allemagne, mais aussi en Europe.
On refait le match.
Éric Silvestro jusqu'à 21h sur RTL.
Que vous inspirent les déclarations de Nicolas Anelka, qui envoie carrément balader définitivement l'équipe de France ce matin dans les colonnes de France Soir? Que vous inspire le caprice de Franck Ribéry et du Bayern Munich, qui empêche les journalistes français d'assister à la conférence de presse du Français pour éviter de lui poser des questions dérangeantes? Venez réagir avec nous sur le 3210, le standard de RTL, sur le blog d'On refait le match, sur RTL.fr et sur le SMS au 64 900. Tout à l'heure, Jean-Louis Tour, Alexis, vous demandez comment ont réagi les médias allemands à ce boycott ce matin des journalistes français. Est-ce que justement il y a une solidarité? Est-ce qu'ils trouvent ça scandaleux? Est-ce qu'ils vont, je n'imagine pas qu'ils vont venir carrément dire nous aussi on boycotte à ce moment-là les points presse, mais est-ce que quand même ça les fait réagir un petit peu?
Écoutez, j'ai pas eu trop d'écho à ce niveau-là puisque là, l'accès était interdit ce matin à la Zeebrugge, on n'a même pas pris la voiture, on est resté bien tranquillement à la maison, au bureau. Mais c'est vrai que c'est. Les Allemands, à ce niveau-là, ils sont plus... comme ça ne concerne pas vraiment un journaliste allemand non plus, ils ne comprennent pas trop cette situation.
Ouais, pas très solidaire, quoi.
Non, mais c'est vrai qu'ils ne comprennent pas également ce qui s'est vraiment passé entre Ribéry et l'équipe de France, que toutes ces histoires qui l'ont concerné ces derniers mois, c'est venu notamment aussi de la presse et des médias français, et que donc, quelque part, les
oui,
Allemands
ne
savent pas...
Oui, parce qu'en Allemagne, les journalistes ne sortent jamais d'affaires.
Sauf quand ça concerne leur propre joueur.
Voilà. Parlons quand même du fond de ce qu'a dit Ribéry, même si on n'a pas pu l'avoir en français.
S'il a dit du fond en allemand, c'est balèze.
Alors comment il parle allemand, Franck Ribéry? Parce qu'il y a quelques mois de ça, il ne parlait pas encore très bien, non? Déjà, pour commencer.
Pour quelqu'un qui est en Bavière depuis 3 ans, c'est pas mal, on va dire. Disons que c'est un peu plus fluide qu'il y a quelques mois. Les mots sont un peu plus ordonnés. Maintenant, il met des verbes dans ses phrases, donc c'est quand même mieux. Mais c'est pas encore parfait, mais enfin, il se fait quand même comprendre.
Bon, et sur le fond, il a expliqué qu'en gros, il comprenait pas vraiment que les sanctions soient données à certains joueurs et pas à tous. Donc là aussi, il a pas compris non plus le but de cette commission. Donc il reconnaît même pas la sanction et donc ça fait pas avancer le schmilblick du tout.
Jean-Jacques est avec nous également sur le 32-10. Bonsoir, Jean-Jacques.
Oui, bonsoir. Bonsoir à. puis merci d'avoir sélectionné mon appel.
Mais volontiers.
Voilà, c'est vrai. Là, je comprends pas bien, en fait, puisque nous avions donc affaire à 22 joueurs hein, sur la Coupe du Monde, c'est pas rien, puisque ça revient que tous les 4 ans. Hein. On assiste à des sanctions. Au niveau d'Evra, Anelka, Ribéry, Toulalan, je comprends pas bien. Je ne comprends pas bien pour quelle raison on a sélectionné ces 4-là, alors que dans le bus, hein, quand il y a eu ce problème qui est apparu, je ne comprends pas bien pourquoi.
C'est très simple, hein, Jean-Jacques. Anelka a été, on va dire, convoqué pour ses propos qu'il a tenus à la mi-temps de France-Mexique. Patrice Evra a été convoqué parce qu'il était capitaine de cette équipe de France et donc, on va dire, porte-parole des joueurs. Franck Ribéry a été convoqué parce qu'il avait le statut non officiel peut-être, mais de vice-capitaine. Et Eric Abidal a été convoqué parce qu'il avait refusé de jouer le dernier match face à l'Afrique du Sud. Quant à Jérémy Toulalan, il a été convoqué parce que c'est son avocat qui avait rédigé le fameux communiqué lu par Raymond Domenech. Voilà pourquoi ce sont ces 5-là qui ont été convoqués.
Oui, d'accord. Mais enfin bon, je pense que le problème est apparu vraiment avant. Je crois que, si mes souvenirs sont bons, et ils sont très bons, il y avait déjà des problèmes assez importants au niveau de l'équipe de France avant la Coupe du Monde, qui était peut-être dû à Raymond Domenech.
Non, mais c'est d'accord. Mais on ne va pas revenir sur Raymond Domenech. On a tous dit qu'il avait mal fait son travail de sélectionneur. Aujourd'hui, on se dit, un mois après, avec tout ce qui a été dit sur Naïsna, on voit encore un joueur qui bave sur l'équipe de France. Bon, c'est pas très surprenant de la part d'Anelka. Et on voit un Franck Ribéry et son club, le Bayern, qui empêche les journalistes français de venir assister à une conférence de presse.
Non, mais
un mois après, personne n'a rien compris. Quoi.
Et puis Jean-Jacques, là n'est pas la question. Le cas de Raymond Domenech, on en parlera, on en parlera plus tard. Mais bref, aujourd'hui, c'est pas ça dont on parle. C'est des sanctions envers les joueurs et ils ont une responsabilité plus importante concernant ces 5 joueurs-là que le reste du groupe. Ça, c'est indéniable.
Et puis en gros, aujourd'hui, voilà, l'heure est à essayer de passer à autre chose. Autant faire profil bas et pas la ramener. Quoi. Voilà, c'est juste le problème.
Jean-Jacques, vous comprenez l'attitude de Franck Ribéry, par exemple, qui ne veut pas de journaliste français à sa conférence de presse aujourd'hui au Bayern ?
Ah non, pas du tout. Non, je comprends pas pourquoi.
On est bien d'accord au moins là-dessus.
On se pose les questions de savoir est-ce qu'ils ont retenu quand même un minimum des leçons de Naïsna, c'est tout.
Oui, tout à fait.
Et visiblement, non, Jean-Jacques. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont rien retenu.
Non, je ne comprends pas du tout. J'estime que on doit savoir absolument pourquoi il refuse. Je crois que c'est même grave à la limite.
Mais il refuse parce qu'il ne l'assume pas.
Ouais, voilà, il veut éviter les questions dérangeantes, c'est tout. Hein.
Voilà, tout à fait. Donc les sanctions, pour en revenir aux sanctions, personnellement, je pense que l'équipe de France aura besoin de ces joueurs-là, de toute façon. Le match qu'on a vu contre la Norvège était très intéressant. On a vu de nouveaux joueurs, c'est certain. Il y a eu un but marqué, c'est remarquable.
Et c'est rare.
C'est remarquable de la part d'une équipe qui jouait quand même contre une équipe internationale. La France jouait contre une équipe internationale. On a marqué un but et on a attendu par le passé. On a vu des matchs internationaux, même amicaux, où la France ne marquait pas. Donc je crois qu'il y a quelque chose de bien.
Vous êtes optimiste.
D'une nouvelle équipe.
Vous êtes optimiste.
Oui, complètement. Mais je pense aussi d'un autre côté que les sanctions sont quand même assez lourde, puisque ça va quand même priver Laurent Blanc de cadre de l'équipe de France, qui savent très très bien jouer au football.
Laurent Blanc aujourd'hui dans un communiqué, il a dit que c'était assez pénalisant, mais bon ça va, il va s'en sortir, il va avoir Toulalan pour un match et Ribéry pour 3 matchs, c'est pas très grave.
Merci en tout cas Jean-Jacques d'avoir été avec nous sur le 32-10, on accueille notre dernier auditeur pour ce débat équipe de France sur les leçons de Naïsna retenues ou pas, apparemment non, par certains membres de cette équipe de France. C'est Michel qui est avec nous de Quiberon, bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Bonjour Michel. Avec nous. Qu'en pensez-vous alors des nouvelles déclarations ou attitudes de Nicolas Anelka et de Franck Ribéry ?
Bah écoutez, moi je vais vous dire la chose suivante, c'est que Nicolas Anelka, pour moi c'est un voyou, excusez-moi le terme, un voyou adulte. Et je trouve que même ces 18
matchs
de... Bon, il faudrait l'exclure définitivement.
Oh bah c'est quasiment ça.
De toute façon, il ne veut plus revenir, alors...
C'est oui, bon. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Mais si vous voulez, je dirais que au niveau de certains, ça peut donner l'impression qu'il pourrait revenir.
Non, il veut pas non, revenir. Je vais vous lire sa déclaration si vous ne les avez pas lues. Qui leur a dit que je voulais rejouer en bleu? J'ai tourné la page. L'équipe de France fait partie du passé. Ils comprennent uniquement lorsqu'ils ont envie de comprendre. Je joue déjà en bleu tous les week-ends, sous-entendu avec Chelsea. C'est une aberration. Ils veulent seulement ne pas perdre la face. C'est pitoyable et pittoresque. Ce sont des clowns. Je suis mort de rire. Donc ne vous inquiétez pas. Il n'a pas du tout l'intention de revenir en équipe de France.
Mais non, mais si vous voulez. C'est pas vis-à-vis de lui que je dis ça, c'est simplement vis-à-vis un petit peu de la médiocrité de ce que la... Comment dirais-je excusez-moi, là.
Je peux pas trop vous aider. La médiocrité de quoi? De leur propos, de leur comportement?
De leur niveau de jeu?
Comment dirais-je
Alors, on va pas trop pouvoir vous aider.
Ceux qui ont jugé
la médiocrité de la commission, vous voulez dire?
Oui.
Oh, vous êtes dur.
Ah non, mais attendez. On se plaint depuis le début. On attend des sanctions. Des sanctions ont été prises par cette commission. Enfin, la Fédération française est allée au bout des choses, est allée au bout de son sujet. On peut pas aujourd'hui se plaindre en disant qu'il y a eu des sanctions.
Oh, il a pas tort quand même, Michel.
Bon, je suis pas vraiment d'accord. Non. Moi, je trouve qu'on attendait tous des sanctions exemplaires. Elles sont arrivées. Bah, il faut s'en féliciter. Voilà. Après, ceux qui sont pas d'accord avec les sanctions, c'est une chose. Mais au moins, la commission a fait ce qu'elle avait dit. Pour une fois.
Michel, le mot de la fin?
La commission, elle a fait ce qu'elle avait dit. Je suis d'accord avec vous et ce qu'elle voulait faire. Mais de toute façon, c'est un petit peu léger.
Léger, certains trouvent ça lourd. Alors, on va tourner en rond si on part dans
ce... Même vous, Michel, vous n'êtes pas loin de porter les deux en même temps.
En tout cas, Michel, merci d'avoir été avec nous depuis le Morbihan à Quiberon. Qu'en pensent les SMSeurs et les blogueurs, Cyprien Sini? Je trouve que les... Non, bah, c'est rien, c'est une petite intervention, tranquillement.
Ah, je crois que c'est Mamadou Sakho qu'on entend déjà.
Peut-être, ce sera tout à l'heure.
Déjà.
Une minute pour Mamadou Sakho, le joueur du Paris Saint-Germain.
Alors, le top nous écrit autant de commentaires, discours pour si peu... Tous ces bons à rien sentir très bien. Il est très énervé le top. Et en plus,
aussi.
Ils vont revenir dans le club France. C'est à vous dégoûter du ballon, nous écrit-il. Le top est très déçu. Il aurait aimé les sanctions soient plus lourdes, par exemple. Alors que Maric nous écrit « Ribéry a une mémoire très sélective. Il semble oublier qu'il s'est invité sur un plateau de télé pour un soi-disant mea culpa, tout en sachant ce qui allait se passer la même après-midi. Et il s'étonne de la sanction aujourd'hui. »
En chaussettes
et en tongs, effectivement. Franck Ribéry, pendant la Coupe du Monde, qui s'était invité sur le plateau de nos confrères de TF1.
Et donc,
à cette époque-là, il parlait encore à la presse française.
Ça, d'ailleurs, selon nos confrères du Parisien, on peut les citer quand même, ça a pesé dans sa sanction, dans la sévérité de sa sanction.
Et c'est ce que dit Maric sur le...
Maric a bien raison.
Peut-être que ce n'était pas si sincère que ça quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. On n'a pas fini d'en parler. On aimerait bien parler foot avec les Bleus, mais c'est compliqué. Espérons que début septembre, pour les matchs face à la Biélorussie et la Bosnie-Herzégovine, on se concentre uniquement sur le terrain des qualifications. Pour l'Euro 2012.
RTL, on refait le match, Expresso.
Allez, avant de parler Mercato, et ça se précise du côté de l'OM, les recrues notamment en attaque, toute l'actualité du sport avec Jean-Louis.
Avec la Ligue Europe de football et le tour préliminaire demain, les matchs allés, le PSG reçoit à 18h30 le Maccabi Tel Aviv au Parc des Princes. Antoine Comboiré devrait présenter une équipe mixte avec des joueurs comme Edel, Louis Ndoula, Clément ou Julie titulaire, des Parisiens méfiants à l'image du défenseur Mamadou Sakho.
C'est une belle équipe israélienne, étant donné que dans les annales, le Paris Saint-Germain ne s'est jamais imposé face à une équipe israélienne. Et on s'attend à un match difficile et bon, on va tout donner pour pouvoir l'emporter. Ensuite, début de saison, c'est vrai qu'on vit très bien ensemble, on se sent solide, on se sent costaud. Après, on a conscience qu'il reste encore beaucoup de matchs, ce n'est que le début et on va continuer à travailler pour pouvoir être le plus efficace possible sur le long terme.
Lille, de son côté, se déplace chez les Roumains de Vaslui à 19h. Adil Rami, touché aux adducteurs, est forfait alors que Johan Cabaye, incertain, sera bien dans le groupe. En tennis, saison terminée pour Justine Hénin, la Belge, blessée au poignet à Wimbledon, a passé de nouveaux examens médicaux qualifiés d'encourageants, mais elle veut tout de même rester prudente. Sur les courts, à Cincinnati, qualification pour le troisième tour de deux Français, Julien Bento et Richard Gasquet. Bento s'est offert le Suisse Stanislas Wawrinka. Gasquet a lui battu l'Allemand Michael Behrer. Et en ce moment, Rafael Nadal mène contre l'Américain Tyler Dent, 6-2, et il est mené tout de même 5-4 dans la deuxième manche. En voile, la victoire est en vue pour Armel Lecléache dans la solitaire du Figaro, déjà largement leader au classement général. Le skipper de Brittère est en tête de la dernière étape. Il est attendu ce soir à Cherbourg.
RTL. C'est l'été sur RTL.
Vos vacances sont terminées, c'est déjà l'heure de rentrer. Et si vous repartiez tout de suite vers la destination de votre choix pour seulement 15 euros par mois?
Avec CanalSat, les vacances, c'est toute l'année. Évadez-vous avec nos plus belles chaînes pour 15 euros par mois pendant 6 mois. Et en ce moment, l'option HD est offerte. Alors n'attendez plus pour en profiter. Appelez vite le 3910 ou rendez-vous sur canalsat.fr. 23 centimes la minute, offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement à CanalSat 4 étoiles avec les packs cinéma et famille.
Patrick, il manque quelque chose à vos enfants en fourniture, je vais chez Auchan.
Ah non, non, rien, merci.
Chez Auchan, vous pouvez faire 50% d'économie sur 30 articles scolaires de marque. Je pensais que ça pourrait vous intéresser.
Non, non. Par contre, si vous pouviez juste leur prendre du papier Canson, des stylos...
En ce moment, avec votre carte Auchan, faites 50% d'économie sur une sélection de 30 articles scolaires de marque. Oui, 50% immédiatement crédité en euros sur votre compte Wow. Encore un bon plan Auchan pour dépenser moins à la rentrée.
Auchan, vivons mieux, vivons moins cher.
Voir conditions et produits signalés en magasin.
On refait le match sur RTL
avec Eric Silvestro.
20h35, on refait le match jusqu'à 21h avec Jean-Louis Tour, avec Cyprien Signy, avec nos correspondants, parce qu'on va parler mercato. On n'a pas fini d'en parler jusqu'au 31 août. Ça s'accélère du côté de l'Olympique de Marseille. Signature, semble-t-il, imminente d'André Pierre Gignac et de Loïc Rémy pour renforcer l'attaque marseillaise. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous également sur le 32-10 jusqu'à 21h. Et puis du côté de Lyon, on pourrait faire capoter le transfert de Loïc Rémy à Marseille puisqu'on a une priorité sur la revente et l'achat de Loïc Rémy. Mais apparemment, on s'intéresse plutôt à un autre joueur du côté de l'Olympique Lyonnais. Pour mixer le tout et pour parler de tout ça avec nous, Jean-Louis Pacul, notre voix marseillaise. Salut Jean-Louis.
Salut à tous et j'ai une bonne nouvelle qui va peut-être pas faire plaisir à Willy, c'est que le président Aulas a lâché sa clause de priorité, donc ça avance. Il reste plus qu'à régler ces fameux 3,2 millions, là, c'est 20% du transfert entre Lorient et l'Olympique Lyonnais.
Ah mais là vous parlez de Gignac, ça n'a rien à voir avec Aulas.
Non, exact.
Les deux vont arriver, d'accord.
J'ai mélangé les deux dossiers.
Ah oui, mais il y a deux dossiers en même temps.
Il y a deux dossiers en même temps.
Vous avez trop le nez dans le guidon, Jean-Louis.
C'est compliqué. Non, il ne sort jamais la tête de l'eau en août, alors forcément.
Je sais que là, j'ai affaire à des experts. En tout cas, concernant Gignac, oui, le président Aulas a lâché sa clause de priorité.
Donc, concernant Rémy.
Concernant Rémy, donc, a priori, le garçon, et c'est une info toute fraîche, s'est donné 24 heures de réflexion, donc ça va encore durer 24 heures, mais d'ici demain soir, puisque vous savez que si jamais il donne son accord, il ne reste plus que ça à régler, eh bien, il faut que les lettres soient envoyées à la Ligue avant minuit de jeudi soir, pour que Loïc Rémy puisse être aligné. Déjà.
Ah, carrément, contre Lorient.
Ah, ouais, contre Lorient.
Bon, alors on va déjà valider l'info. On va saluer Willy Maisonnas, déjà, notre voix lyonnaise.
Salut Willy.
Salut
Bonsoir
Willy.
À tous.
Salut alors, Willy.
On va vous demander la validation de l'info de Jean-Louis Pacul. Est-ce que Jean-Michel Aulas a bien renoncé à sa clause
de priorité.
De priorité.
Bah, écoutez, voilà, je n'ai pas cette info. En tout cas, ça confirme les bruits qu'il y avait toute la journée autour de l'Olympique Lyonnais et de ce dossier Loïc Rémy. Ce n'est pas la priorité aujourd'hui du recrutement lyonnais. Lyon a du monde à ce poste-là. D'ailleurs, recruté à ce poste-là, puisque
Jimmy Briand
évolue dans ce secteur de jeu. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise. On en parlait ensemble dans l'après-midi. Lyon n'allait pas ennuyer Marseille sur ce dossier-là.
Et bon, pour corroborer tout ce que vous nous dites, messieurs, j'ai également reçu il y a deux petites minutes un texto de Mickaël Lefebvre, notre correspondant sur la Côte d'Azur, qui m'a confirmé lui aussi l'accord à hauteur de 13 millions d'euros. Plus des bonus en ce qui concerne Loïc Rémy et l'Olympique de Marseille. Jean-Louis, vous parliez de... Le joueur s'est donné 24 heures de réflexion, c'est ça?
Oui, le joueur vient de se donner 24 heures de réflexion. José Anigo voulait l'amener dans ses bagages dès ce soir. 24 heures de réflexion, ce sera réglé demain dans l'après-midi.
Il est complètement fou, Rémy. Il a vu toutes les pistes s'envoler les unes après les autres. Il a l'OM qui lui fait le pont d'or.
Mais
il se donne 24 heures de réflexion juste pour le principe, quoi.
Voilà, c'est normal.
Il va pas laisser passer ça, quand même.
C'est de bonne guerre, c'est normal, et je peux vous garantir qu'à l'OM on n'est pas très inquiet sur ce dossier.
Il avait déjà laissé passer West Ham comme ça, hein, qui faisait une offre, et lui il attendait, il était avec Stoke City, et il attendait Liverpool et Tottenham qui sont jamais venus. Voilà,
West Ham,
il
laisse 24
heures. D'accord, mais c'est le football anglais, je pense qu'il aurait eu un salaire bien plus important.
C'est pas Ligue des Champions.
Non, mais je pense qu'il aurait eu un salaire bien plus important à West Ham qu'à Marseille. Et ensuite, à West Ham, si tu fais 5 bons matchs, l'année d'après, tu pars à Tottenham et ainsi de suite, jusqu'à Manchester United et Liverpool.
Mais il y a les Bleus. Et Laurent Blanc a dû dire. dire à tous ces nouveaux garçons...
De travailler avec Didier Deschamps.
Non, pas forcément de travailler avec Didier Deschamps, mais de rester pas loin, quoi. De rester à proximité dans un championnat que Laurent Blanc peut superviser tranquillement, envoyer ses émissaires, se déplacer lui-même. Voilà, je pense que tout ça a joué, les très bons rapports aussi.
Faire des économies pour la fédération.
Voilà. Non, mais on peut s'interroger maintenant sur l'OM qui vient de dépenser grosso modo 30 millions sur le marché.
Mais non, il y a des échéances.
Non, mais d'accord.
Vous avez déjà donné la.
Non, mais justement, expliquons d'abord. Alors, on me l'avait donné cet après-midi au téléphone, Jean-Louis. Alors...
Non, je l'ai déjà donné hier. Non, mais surtout. Même
oui, mais est-ce que c'est pas le danger, justement? Alors, donc expliquons, c'est des échelonnements, donc ils paieront plusieurs fois en plusieurs années.
C'est normal, hein, dans ce type de transfert.
Mais est-ce que ça risque pas de plomber les comptes de l'OM à la fin de saison prochaine, exactement ce qui s'est passé en cette fin de saison, c'est-à-dire que...
Primes qui ont plombé le...
C'est les primes, mais là ça va être... Ah bah attendez, alors parce qu'ils peuvent pas recruter, parce qu'ils doivent encore 4 millions à Nice, 3 millions à Toulouse, au final ils ont déjà dépensé 10 millions avant de commencer le mercato.
Ils ont besoin de recruter maintenant.
Oui, mais ça sera le même problème, et donc c'est que reporter le problème systématiquement. On verra.
Et donc vous préférez quoi, que l'OM recrute personne?
Je sais pas, il faut se poser les questions du football sain ou pas sain, et trouver l'argent.
Je pense que là il est un peu tard pour se poser ce genre de questions. On est le 18 août, le marché se finit bientôt, il y a personne.
Obligé de recruter.
Chers amis, à part des clubs clafis d'argent, c'est-à-dire comme on dit à Marseille, plein. C'est-à-dire plein d'argent, comme
je
on dit
traduis,
à Marseille. Genre,
oui.
Ouais, non, mais j'ai le petit dictionnaire du parler marseillais, je vous l'enverrai. comme Fenerbahçe qui peuvent mettre 10 millions d'euros sur la table pour le transfert de Mamadou Niang. Tous les clubs, c'est une pratique régulière, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de malin là-dessous. C'est classique, on paie un joueur en deux, voire en trois fois. C'est normal. Alors, les Marseillais ont 18 millions d'euros de liquidités, les 4 de Margarita, les 4 de Vincent Labrune via Eric Socker, les 10 de Niang, ça fait 18 millions. Ben, on en donne 6 ou 7 à Lyon, on en donne 6 ou 7 à Nice, ou 8, et puis on se revoit l'année prochaine pour finir de payer les échéances. Ça, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Tous les clubs agissent de la même manière.
32-10.
Envie de réagir sur les débats du soir?
Venez débattre au 32-10 sur RTL.
Oui, alors on peut s'étonner quand même. Marseille a été totalement amorphe comme l'essentiel du marché pendant plusieurs semaines. Marseille n'a pas réussi à boucler le dossier Luis Fabiano. Marseille s'inquiétait, puis en deux jours, pas de problème, on fait signer Gignac et Rémy. C'est quand même bizarre.
Non, mais,
je trouve,
non, parce que Gignac et Rémy étaient sur les listes, sur la shortlist.
Ah oui, enfin, tout ça s'est fait très vite quand même.
C'est
juste
normal.
Que l'OM a changé ses priorités.
Non, mais les événements se sont quand même accélérés.
Mais ne serait-ce que pour se mettre d'accord sur le salaire pour un contrat avec Gignac et Rémy, en général, ça prend quand même quelques jours. Les mecs, ils discutent.
Là, tu prends des joueurs qui jouaient à Toulouse et à Nice sans faire offense à ces clubs-là, qui n'ont pas du tout les mêmes moyens que l'Olympique de Marseille.
Mais non, c'est des joueurs avec qui José Anigo avait déjà des contacts depuis 2 ans, voire 3 ans, pour ce qui est le cas de Loïc Rémy. Il connaissait, à quelques dizaines de milliers d'euros près, il connaissait les prétentions financières de Loïc Rémy. Il connaissait les difficultés financières de Nice. Il savait déjà que Nice accepterait un paiement en plusieurs traites, tout comme le TFC. Bon, le TFC, ça a été un peu plus compliqué parce qu'il a fallu convaincre le président de payer en plusieurs fois, mais ça, c'est acquis.
Il nous a dit au téléphone cet après-midi, les garanties bancaires sont faites pour ça, hein, président Sarah.
Mais voilà, à partir du moment où vous avez Margarita, Lou Dreyfus ou Eric Socker qui vous dit, il n'y a pas de souci, on vous fait un chèque maintenant et vous aurez votre paiement. C'est pas des sociétés offshore aux îles Caïmans ou à Guernesey. C'est des sociétés qui ont pignon sur rue, qui font des affaires, qui sont cotées en bourse. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Moi, je suis étonné que vous vous étonniez, chers amis, de ce type de pratique.
Non, moi, je m'étonne de la rapidité de l'accord avec les joueurs et tout ça.
Moi, je me souviens que Nice avait refusé des offres émanant d'Angleterre ou de Turquie parce que c'était des paiements en deux fois ou en trois fois et qu'ils voulaient du cash tout de suite sur le transfert de Rémy.
Mais venant de certains clubs anglais et venant de certains clubs turcs, c'est normal que les dirigeants se posent des questions.
Souvenez-vous, en fait, il a juste fallu attendre que Didier Deschamps donne son accord parce qu'il voulait pas de joueurs du championnat de France.
Non. C'est plus compliqué que ça. Il a fallu attendre les derniers chaos du feuilleton marseillais de l'été.
Oui, mais Didier Deschamps, clairement, au départ, ne voulait pas d'une piste française, si ce n'est peut-être Gignac.
Alors, si on veut polémiquer et appuyer un peu là où ça fait mal, ce qui ne nous ressemble pas,
Vous me laissez terminer, cher ami. Vous citiez des clubs turcs ou anglais. Je vous rappelle quand même que quand l'Olympique de Marseille a recruté Franck Ribéry, il avait 6 mois de salaire de retard qui n'était pas payé à Galatasaray par le club. Donc, les garanties bancaires du groupe Louis Dreyfus, deuxième armateur mondial, et les garanties d'un club turc, c'est quand même pas tout à fait les mêmes.
Ah non, je suis d'accord avec vous, je parlais plus de...
Et je respecte tout à fait les Turcs et leur football, mais les garanties bancaires de leurs propriétaires ne sont pas tout à fait les mêmes.
Alors, en tout cas, Rémi et Gignac vont débarquer maintenant, ça ne fait pratiquement
Gignac,
plus aucun doute.
C'est un tout petit peu plus compliqué.
Allez, parce qu'il ne veut pas trop réduire ses 16 millions, hein, apparemment, mais il y a les 22% pour l'Orient.
Voilà, il y a les 22%, on arrivera à un accord, là aussi, ça sera payé en deux fois, voilà. Mais le dossier, alors, paradoxalement, les choses se sont un peu inversées. On attendait une arrivée imminente de Pierre-André Gignac et peut-être un peu plus de temps pour Loïc Rémy. Bon, là, visiblement, ça s'est inversé. 24 heures pour Loïc Rémy et le président du TFC va rentrer d'Afrique du Sud très bientôt. Ça va se caler, tout ça. Mais bon, pour le moment, allez, on va dire 90% pour les deux garçons.
Est-ce que ça va rassurer les supporters de l'OM? Il y en a partout, vous savez, même en Belgique, comme Jean-Marc. Bonsoir, Jean-Marc.
Bonsoir tout le monde.
Salut, Jean-Marc.
Bonsoir, monseigneur, pas cul, là.
Ben...
Je vous dis monseigneur parce que je veux mieux vous flinguer. Je veux vous dire une chose. Les 18 millions qu'on a en caisse, allez les dépenser pour Gignac, qui en équipe de France n'a rien prouvé, avec Toulouse, pas le Champions League, c'est un joueur de championnat, déjà un. Notre ami Nichois, là, Rémi, il n'a rien prouvé, parce que Lyon est dessus, qu'est-ce qu'il vaut? En Coupe d'Europe, on l'a vu. Qu'est-ce qu'il va faire en Champions League quand on se prend un exemple, prenons l'Inter ou prenons Chelsea ou prenons Manchester, quand on leur met quatre mulets de défenseurs anglais et blindés et expérimentés, dites-moi qu'est-ce qu'ils vont faire ces deux attaquants-là.
Eh ben,
ils vont être à la pêche.
J'attendrai de le voir, cher ami.
Moi, j'attends de le voir. Moi, à 18 millions, je préfère sacrifier en mettre 5 de plus. Madame Dreyfus a fait un petit effort. Parce que quand on a joué les matchs de Champions League l'année passée, ça a rapporté de l'argent. Seulement, on a embauché des retraités. On a pris des salaires comme Morientes et tous ces gens-là. Si on les avait virés comme Brandao, on ne l'avait pas pris. D'où, on ne sait même pas d'où il vient, ce type-là.
Il avait joué en Ligue des Champions avec le Shakhtar, quand même, Jean-Marc.
Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait avec Marseille?
Mais est-ce que ce n'est pas d'ailleurs les interrogations qu'avait Didier Deschamps, Jean-Luc Pacul, justement sur le niveau potentiel de Gignac, Rémy ou même Gamero, on peut le rajouter dans la liste, en Ligue des Champions?
Non, mais bien entendu. Mais à partir du moment où la piste Luis Fabiano s'est effondrée, parce que là, effectivement, l'affaire a été très très mal embouchée, à partir du moment où ça s'effondre et que la date fatidique du 31 août approche, à partir du moment où vous avez Atem Ben Arfa, d'ailleurs j'en dirai un mot tout à l'heure parce que sa situation a évolué, à partir du moment où Atem Ben Arfa dit « moi je remets plus les pieds à la commanderie », à partir du moment où Mamadou Niang n'arrive pas à résister, on le comprend, aux sirènes de Fenerbahçe, l'actualité du mercato marseillais a été quand même bouleversée par deux ou trois anecdotes qui nous ont bien fait rigoler, mais qui étaient assez peu prévisibles finalement.
Jean-Louis, on va se faire flinguer en Champions League. Parce que Luis Fabiano a 30 ans, un contrat de 3 ans, à 20 millions, je ne sais pas combien il veut par an, c'est pas rentable. Parce que quand vous allez le revendre, qu'est-ce qu'on va nous donner?
C'est pour ça qu'ils l'ont pas pris.
Mais c'est pour ça qu'ils préfèrent prendre des garçons de 23-24 ans.
Non, mais ils n'ont rien prouvé, Jean-Louis. En Champions League, on va se faire massacrer. On n'a pas dépensé à bon escient.
On peut en parler.
On s'est basé sur des joueurs de championnat et en Champions League, on est nulle part. On est maintenant, on a la moitié d'équipe blessée, on vient de prendre deux trempes et c'est pas fini. Parce qu'on va en prendre encore. Pourquoi ne pas avoir pris Gilardino? Moi, à la place de, je vous dis franchement, à la place de Gignac, moi j'aurais pris Jérémy Ménez. Hein, parce que Jérémy Ménez, il joue dans un gros championnat.
Ouais, c'est vrai.
Je l'aurais pris.
Jean-Marc, qu'est-ce qu'il a prouvé, Jérémy Ménez?
Rien de plus.
On ne va pas comparer le championnat italien avec le championnat français.
Non, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il a prouvé? Rien non plus.
Mais il est remplaçant en Italie.
Rien non plus, mais dans une équipe italienne, c'est un autre niveau.
Mais
c'est
il fait 15... mentalité. Cher ami, il fait 15 matchs par an, Jérémy Ménez.
Parce qu'on ne veut pas lui donner sa chance.
Ah, ben bah, ouais.
Mais... Il peut flamber.
Mais il était sur les tablettes marseillaises.
Je vais vous dire franchement. On va même pas sortir des poules. J'espère qu'il n'y a pas un quart de tour en Champions League, sinon on ne sortira pas. Hein.
Soyez optimiste, Jean-Marc. Soyez optimiste.
Juste
quand même.
Pour
clore et pour parler du dossier marseillais, on peut remarquer une chose quand même, si on veut appuyer un peu là où ça fait mal, c'est que Didier Deschamps voulait s'occuper du mercato. Il n'a pas réussi à faire le grand attaquant qu'il voulait. José Anigo a pris le dossier en main. En deux jours, il a fait deux joueurs. Alors, c'était plus facile de faire Gignac et Rémy
que Luis Fabiano ou Girardin.
Mais du coup, je pense que pour Didier Deschamps, il a dû avaler des couleuvres.
On va demander également à Jean son avis. Jean, sur le 32-10. Bonsoir, Jean.
Bonsoir.
Vous êtes à Nantes.
Oui, j'appelle Nantes. Je voulais intervenir un peu, en fait. Bon, il a tort, celui que je viens d'intervenir tout à l'heure. Mais sauf qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, moi. C'est par rapport au fait qu'on nous parle de Fabiano qui a 30 ans. Mais Didier Drogba, à quel âge? Puisqu'il voulait prendre Didier Drogba aussi. Il a quel âge, Didier Drogba?
Ah, mais Didier Drogba, il aurait 50 ans et deux cannes et deux genoux en bois, il le prendrait quand même à l'OM.
Et il marquerait 20 buts par saison.
On parle de Fabiano qui a 30 ans. Et moi, je pense que à la place de Gignac, sincèrement, j'allais prendre Fabiano parce que, comme il a bien dit tout à l'heure, c'est pour la Ligue des Champions. Il faut bien penser à la Ligue des Champions. L'OM veut passer le second tour. Mais on ne passe pas le second tour avec les Gignac, les Rémy. Rémy, peut-être, parce qu'on va dire, il va remplacer Ben Arfa.
Ouais.
Mais est-ce que vous pensez que Gignac, sincèrement, comme il a dit, Gignac peut vraiment briller en Ligue des Champions?
Mais il peut flamber, ces joueurs-là.
On a vu Gignac contre Liverpool en Ligue des Champions. On l'a vu. Gignac, il ne peut pas flamber, ça je vous dis.
Mais il n'avait pas Lucho derrière lui, cher ami.
Ouais, franchement, ils peuvent flamber. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec des joueurs comme ça, parce qu'ils ont quand même 24-25 ans.
Enfin, si vous les payez 15 millions, vous ne voudrez pas non plus 30.
Si un buteur de classe mondiale, ça se vend 30.
C'est question d'objectif. Qu'est-ce qu'on veut comme objectif? Est-ce qu'on veut passer le second tour de la Ligue des Champions ou pas?
Oui.
C'est ce qu'on veut, en fait. Mais si on veut passer la Ligue des Champions, il faut mettre les moyens sur les joueurs.
Oui, mais cette année, l'OM sera dans le chapeau 2.
Comme pour Gignac, on aurait pu la mettre sur Fabiano.
Ah, mais Fabiano, je pense que le président de Séville, déjà, voulait pas des chaudements de paiement. Et avec et les 18 que vous deviez payer, vous payez Rémy et Gignac. Moi, j'ai une question, Jean-Louis Pacul.
20 millions d'euros et 480 000 euros de salaire par mois.
Rémy, ça joue quand même plutôt ou à droite ou dans l'axe, non?
Non, il peut jouer à gauche.
À gauche aussi.
Et Valbuena peut jouer à gauche aussi. Oui.
Il y a des solutions hier.
Je pense que pour le championnat, ce sera une bonne équipe. Mais pour la Ligue des Champions, sincèrement, c'est à voir.
Eh bien, on verra, chers amis.
Ouais, ça, c'est vraiment à voir.
Bon, en tout cas, là, il n'y aura pas de mauvaise surprise, Jean-Luc Pacul.
Non, a priori.
Les deux,
non.
C'est bon, là.
Ouais, moi ça me... à partir du moment où...
On ne sait plus trop avec l'OM. Hein.
Non, mais à partir du moment où Luis Fabiano, les Gilardino, les Forlan, c'était totalement inaccessible, non. Pas simplement au niveau du transfert, mais au niveau du salaire... Moi, je dis, il faut voir. Je suis plus optimiste que nos amis. Ben Arfa, vite fait.
Oui, Werder.
Ouais, plutôt. Ouais. Ils sont en Allemagne aujourd'hui, ces agents, pour discuter avec le Werder.
Ouais, 8 millions cash proposés par le Werder qui doit remplacer Ozil qui est parti au Real Madrid.
Et puis, je trouve que le championnat allemand va correspondre beaucoup mieux à Athènes que le championnat anglais.
Et puis surtout, ça fera du cash pour l'OM.
Et ça fera du cash pour l'OM, donc a priori, tout le monde sera content.
Et Jean-Louis, glissez à Didier Deschamps et José Anigo et puis Jean-Claude Dacier que s'il manque encore un peu de cash pour finir, ils demandent à Jean-Michel Aulas et à Claude Puel, ils ont un gros trésor de guerre, ils veulent pas s'en servir apparemment.
On va lancer une ligne de crédit.
On va en parler avec Willy.
Et puis Benoît Chéroux qui va rester et qui risque même d'être le nouveau capitaine de l'OM.
Bon, dis donc, tout change à Marseille. C'est décidément un petit peu surprenant cette intersaison. Merci Jean-Louis.
Salut à tous.
Je vous dis à demain parce que j'ai l'impression qu'on va se voir demain.
Oh, moi, tout le plaisir est pour moi, chers amis.
Nous aussi, au plaisir de vous retrouver demain, bien sûr. Il y a
Salut
toujours des choses qui se passent du côté de Marseille. La pub, et on parle de Lyon. Tiens, il y a des sous là-bas. Il n'y en a pas beaucoup dans le championnat de France. À Lyon, il y en a, mais pour l'instant, ils n'utilisent pas. Pourquoi?
RTL 20h-21h.
On refait le match.
On refait le match sur RTL.
Pendant les vacances, c'était un peu le camping, mais avec But à la rentrée. Vous, les enfants, les amis, chacun sa chambre. En ce moment, But vous offre 30% de remise sur une sélection de chambres signalées en magasin. Moins 30%, une rentrée bien organisée.
But, on s'y retrouve tous.
Eh ben moi, mon père, il m'a promis de m'inscrire au judo à la rentrée. Mais la rentrée, c'est loin.
Salut Thomas, c'est Frédéric Jossinet, vice-champion olympique. Cet été, avec la Fédération Française de Judo, tu vas découvrir l'aventure judo avec le Judo Tour Littoral.
Ah bon? On peut faire du judo sur la plage?
Oui, bien sûr. Le Judo Tour Littoral, ce sont des initiations gratuites ouvertes à tous sur 24 plages de France jusqu'au 21 août.
Et il y aura des champions en vrai?
Oui, ils t'attendront au village judo pour des démonstrations, des dédicaces et plein de cadeaux à gagner. Alors rendez-vous sur les plages cet été. Le judo, c'est pour toute la famille avec RTL.
Éric Silvestro.
On refait le match sur RTL.
20h53 sur RTL, première radio de France, on refait le match. On parle mercato après l'Olympique de Marseille. On était quand même en train de se dire, là, pendant la publicité, que Niang ne devait jamais partir. Il était intransférable, il a fini en Turquie. Que Ben Arfa voulait aller qu'à Newcastle et nulle part ailleurs, il va se retrouver en Allemagne. Que Chéroux devait partir parce qu'on avait besoin d'argent, il va être capitaine. Et que Deschamps ne voulait pas de joueur du championnat de France et que finalement il va en prendre deux.
Moi, je suis resté bloqué sur Chirou capitaine. C'est formidable.
Moi, je trouve que ça montre vraiment le poids à l'OM qui était pour Deschamps. Et aujourd'hui, c'est Anigo qui est en train de remonter en flèche, qui est resté tapis dans l'ombre tout le mercato et qui est en train de prendre le pouvoir.
Et Dieu sait que quand on reste tapis dans l'ombre à Marseille, forcément, ouais, on pense à certaines choses. Willy Mesona, ça a été très patient. On a bien compris que Lyon ne mettrait pas d'obstacle à la signature de Loïc Rémy à Marseille parce que l'Olympique lyonnais prépare peut-être un autre coup, mon cher Willy Mesonès.
Ah oui, bon, il semble que...
On parle tout doucement parce que c'est encore secret.
C'est encore secret, non, mais il semble, c'est vrai que Lyon est une vraie priorité aujourd'hui. Elle se situe au milieu de terrain et elle concerne un joueur de Bordeaux. Voilà. À vous de deviner.
Aloudira, non, pardon.
Non, pas
un peu plus haut.
Vendel,
Plasil.
Un tout petit peu plus haut.
Bon, allez, Johan Gourcuff, on l'a bien compris.
Ouais, exactement. Il semble que le président Aulas ait décidé vraiment d'insister sur la star bordelaise. On sait qu'il avait dans le viseur le joueur breton, le joueur des Girondins de Bordeaux. Mais avec les mauvais résultats de Lyon en début de saison, avec un seul point pris après deux journées, avec les blessures aussi des Brésiliens, eh bien aujourd'hui, il a vraiment envie d'accélérer là-dessus. Maintenant, c'est cher. Vous disiez que Lyon était très, très riche et avait un gros trésor de guerre.
Par rapport aux autres, hein.
Ah, d'accord.
Par rapport aux autres clubs
c'est
français.
C'est quoi le trésor de guerre aujourd'hui? On parlait de 25 millions.
Oui, on disait 25 millions, moins les 6 du transfert de Jimmy Briand. Voilà, il y a autour de 19 millions d'euros, 20 millions à l'Olympique lyonnais.
C'est énorme pour un club français aujourd'hui.
Seulement Gourcuff, c'est 26 millions.
Ouais, oui, c'était 26 millions sur le papier.
Non, mais
c'est
26 millions. Et la clause à 26, apparemment, Jean-Louis Triaud ne négociera pas en dessous. Mais on ne peut pas imaginer que Jean-Michel Aulas peut débloquer un peu des fonds là, pour un truc comme ça. Parce que,
ben, on peut imaginer surtout s'il réussit à vendre, par exemple, un joueur. On pense à Kallström ou Jean de Macoun également. Mais l'idée, ce n'est pas non plus de déplumer un peu le milieu de terrain. Il peut-être faire quelques économies en résiliant par exemple le contrat du Brésilien Anderson qui est toujours là mais sur lequel l'OL ne compte pas.
Kléber, hein, de son prénom.
Kléber Anderson, bien sûr. Oui.
Non, parce qu'il y a tellement des Anderson brésiliens et on se souvient plus comme il a jamais joué à Lyon.
Ça aurait vraiment de la gueule, enfin, un numéro 10 à Lyon depuis le départ de Juninho.
Bah, c'est la fin du 4-3-3 en même temps. Hein. Ou alors il jouerait dans les 3 du milieu.
Il remplace Juninho poste pour poste, enfin. Quoi. Enfin. D'accord. Et c'est vraiment.
Non, ce n'est pas forcément la fin du 4-3-3. Et puis surtout, ça a un avantage, c'est que Gourcuff, par rapport à la piste brésilienne Ganso, par exemple, Gourcuff lui connaît parfaitement le championnat français. Il y aurait pas vraiment de problème d'adaptation, ni sur le terrain ni dans le vestiaire, puisqu'on le sait, il est très proche de joueurs comme Hugo Lloris et Jérémy Toulalan. Et autre avantage, c'est qu'il fait l'unanimité au niveau de l'état-major lyonnais.
Ce qui est rare aussi.
Ce qui est rare aussi, voilà.
Et Willy, il n'y a pas une réflexion menée pour un défenseur central à Lyon?
C'est incroyable.
Parce qu'on part quand même avec Chris, qui est quand même assez âgé, même s'il a prolongé, et qu'il a son niveau et qu'il est blessé. Toulalan, on part quand même complètement dans l'incertitude à ce poste-là, et s'il peut remonter au milieu, c'est pas non plus très grave.
Oui, mais le choix de Claude Puel, c'est quand même de l'imposer au milieu de terrain, donc ça serait
si
de
défense. Si on voit que c'est un échec terrible au bout de deux mois, on va peut-être
bien sûr, ça sera peut-être un désaveu. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui la priorité semble se situer sur Johan Gourcuff. Maintenant Lyon regarde un peu partout et forcément on parle par exemple de Pape Diakaté. C'est un joueur qui est sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais.
L'ancien Dynamo Kiev qui était à Saint-Etienne
et l'ancien
Stéphanois.
Ouais. Mais surtout la clause de transfert, on évoquait 8 millions, elle a baissé autour de 4 millions, donc ça devient intéressant. Mais ça sera plus dans un deuxième temps, peut-être dans les 48 dernières heures du mercato.
Oui, mais Claude Puel n'acceptera jamais de faire un chèque de 25 millions pour un joueur. Il va avoir des boutons partout, Claude Puel.
Mais c'est Jean-Michel Aulas qui fait les chèques.
Claude Puel, à chaque fois qu'on lui a dit « t'as de l'argent pour recruter », il a dit « non, c'est bon, on garde ».
Non, mais c'est vrai qu'on on avait l'impression surtout que l'idée de l'Olympique Lyonnais, c'était de trouver un ou deux éléments bons, mais à bas prix. Seulement, les résultats et les blessures, on semble-t-il, fait un peu changer la donne. Donc, on va voir quelle va être la réaction et de Lyon, mais également des Girondins de Bordeaux, puisque le championnat a débuté pour eux, et il faut réagir aussi.
Je voudrais juste l'avis de Laurent sur le 32-10, très rapidement, qui nous fait la gentillesse d'être avec nous. Bonsoir, Laurent.
Bonsoir.
De Cluses. Alors, pour cette OL, on prend Gourcuff?
Ah oui, il faudrait prendre Gourcuff et puis il faudrait déjà dans un premier temps demander à Claude Puel qu'il s'occupe plus du mercato. Il espère Bernard Lacombe comme ça se passait avant, parce que c'est un peu une cata lui. Hein. Je prends pas. Il faut incorporer des jeunes après la défaite à Caen. C'est une équipe trop jeune qui essaye d'entraîner l'équipe et puis de nous faire gagner quelque chose la troisième année, mais qui s'occupe plus du mercato.
Voilà, on laisse faire Bernard Lacombe qui a souvent eu le nez creux.
Ouais, Lyon a souvent une nez creuse dans le recrutement, même si ces deux dernières saisons, quand même, ou trois dernières, ça a été compliqué avec souvent des investissements très très importants. Je pense à Makoun, Bonnemer, Keita, Ederson même. Ederson, ça a coûté 14 millions d'euros.
Lovren.
Et Lovren également. Mais Lovren, on peut toujours lui laisser 6 mois d'adaptation. Ouais. On va voir ce qu'il fait cette saison. Et c'est vrai que ça a coûté très cher pour peu de rendu au final.
Ouais, très peu de rendu. Vous nous appelez, hein, bien sûr, Willy Maisonnas, quand Jean-Michel Aulas sort le carnet de chèques.
Avec plaisir.
Ça, on attend ça. Il ne sort pas pour rien, hein, Jean-Michel. Non,
ça serait formidable, Gourcuff. Je pense que ça simplifierait tout le jeu lyonnais et ça solidifierait la défense aussi.
Et ils ne se feront pas flinguer, comme disait Jean-Marc, en Ligue des Champions après.
Ça, c'est tout sûr. Non, c'est un vrai achat intéressant.
Notre auditeur marseillais. Merci, Willy.
Ça va être compliqué. Hein. C'est une affaire tout de même compliquée.
Il y a une clause. Hein, si Lyon arrive à avoir l'argent, c'est bon, c'est fait. Hein.
Oui, mais je ne pense pas que Lyon soit tout de même disposé à mettre 26 millions d'euros sur la table.
J'imagine que Lyon puisse pas trouver une solution.
On va voir. Il reste jusqu'au 31 août. On a souvent vu des transferts se faire jusqu'à la dernière minute.
Lors de l'interview du président Aulas, on a bien senti qu'il passait un peu la main à Johan Gourcuff. Il avait envie que lui prenne un peu les devants.
Qu'il lui dise j'ai envie de venir à Lyon.
Exactement, il fonctionne souvent comme ça.
On se retrouve d'ici le 31 août, Willy Maisonnas. Merci à Jean-Louis Tour, à Cyprien Signy, à Thomas Gé, à la réalisation de cette émission. On se retrouve demain pour On refait le match entre 20h et 21h. On suivra notamment la fin du match du Paris Saint-Germain en barrage de Ligue Europe face au Maccabi Tel Aviv.